sur Canal Sud 92.2. Nous voici donc avec nos invités. Ils sont venus, du Kurdistan, mais ils sont là depuis déjà quelques temps. D'abord Akin, que l'on connaît bien sur cette antenne, en fait, qu'on reçoit régulièrement. Bonjour Akin.
Bonjour.
Et puis aujourd'hui, c'est un plaisir de te recevoir. Donc c'est Aïché, bonjour à toi.
Bonjour, merci.
Merci à toi. Merci de vous déplacer. Donc, je sais que dans pas longtemps, là, à 19h, il y a un rassemblement. Donc, c'est bien ça, il se maintient, le rassemblement à Esquirol, si je ne m'abuse.
Oui, il y a un rassemblement qui est prévu à 19h au métro Esquirol. Le rassemblement a pour but de contester, de protester contre l'invasion turque de la région de Rojava. Et demain aussi, on a des actions à mener. Distribution des tracts à la fac de Jean Jaurès, enfin Mireille. Et vendredi soir, à 19h, pareil, un rassemblement prévu au métro Jean Jaurès.
C'est confirmé là maintenant, le métro Jean Jaurès, oui. Pour vendredi. C'est confirmé. Oui. D'accord, formidable, ok. Et ça c'est bien. Alors donc, des actions, puis on rappelle, hein, la semaine dernière, il y a eu un boycott des écoles par les familles et par les enfants, une manifestation spontanée sur place du Capitole. Enfin, des actions, vous en faites un jour sur deux, même, ou tous les jours. Là actuellement, on rappelle que depuis le 9 octobre, les territoires où vivent vos familles, en fait, sont bombardées. Et on rappelle qu'il y a des morts tous les jours, pendant que la communauté internationale ne bouge pas. Alors, donc, ces dates, on va les redonner. Et le contact aussi, peut-être, à Kin, si les gens donc, n'ont pas le temps de noter les dates et ils veulent quand même être informés.
Mais on peut nous rejoindre sur la page Facebook de la communauté kurde de Toulouse. Et aussi sur cdk.toulouse@gmail.com, c'est notre adresse mail.
D'accord.
Pour rappeler, bon, ce soir à 19h, on a un rassemblement. Demain, distribution des tracts à la fac de Mireille. Et vendredi soir à 19h, un rassemblement au maître Jean Jaurès.
Voilà. Après, il y a aussi un local qui est un point ressource pour vous, en fait, notamment c'est un lieu où vous maintenez la culture par le biais aussi de repas partagés, par le biais de plein d'autres choses. Il me semble que c'est un local important, ce local de l'association de Kurdes de Toulouse.
Oui, ce local se trouve à l'Union, dans la zone de Jatsak Loubé, juste derrière le Castorama, pour ceux qui connaissent l'Union. Quotidiennement, ce local est ouvert et plus particulièrement, il y a des réunions les dimanches, les week-ends.
Voilà. Donc voilà, on le rappellera autant qu'il faut et à chaque fois, on va essayer de le mettre dans les podcasts des émissions, hein, d'accord ? Alors, on rappelle qu'actuellement, c'était clairement ce que tu dis, c'est l'invasion. Hein, tu poses bien la chose. Donc, c'est une invasion turque qui se déroule actuellement au Rojava et qui rappelle tristement ce qui s'est passé voici un an à peine à Afrin.
Oui, pour nous, c'est une invasion. Pourquoi on dit une invasion ? Parce que la Turquie a toujours eu ses ambitions de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui, pour ceux qui connaissent l'histoire un peu, était étalé sur trois continents. Et les Turcs considèrent que toutes ces régions, c'était à eux, et ils veulent à nouveau les reconquérir. En 1974, ils ont dit qu'ils allaient pour la paix au Chypre.
Ouais.
Ça fait 50 ans qu'ils sont là, ils n'ont jamais quitté.
Invasion.
C'est une invasion, et l'année dernière, début de l'année 2018, la région d'Afrin, c'est la partie la plus ouest de Rojava, le nord-ouest de la Syrie, qui a été envahi par la Turquie exactement le 20 janvier, le début des opérations, qui a duré plus de 2 mois, qui a coûté la vie de plus de 1500 personnes et des déplacements de plus de 300 000 personnes qui se trouvent aujourd'hui dans des camps de réfugiés entre Alep et Afrin, le camp de réfugiés Shahba, la région qui a beaucoup de population d'Afrin qui accueille cette population.
On rappelle aussi donc, que vous êtes depuis longtemps, enfin plus ou moins longtemps ici. De toi, Akin, ça fait combien de temps que tu es en France?
Moi, je suis arrivé en France en 1995, donc ça fait 24 ans pratiquement.
Okay. Et toi, Ishi?
Moi, depuis que j'ai l'âge de 4 ans, j'en ai 29, donc j'ai un peu grandi ici.
Ça fait 25 ans aussi, quoi.
Ouais.
Tous les deux, ça fait une vingtaine d'années.
Oui. Ouais.
Ouais. Et tous les deux, vous êtes quand même avec un maintien important de la culture kurde, donc la langue notamment.
Bien entendu, parce que C'est ce à quoi s'attaque principalement. Il faut savoir que les Kurdes sont un peuple. C'est le plus grand peuple au monde sans État. Et aujourd'hui, on est séparés entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie.
Alors tu peux le redire parce que justement les gens, tu sais, en France déjà ils ont du mal avec leur région. Alors là, donc effectivement. Donc,
mais écoutez, on est plus de 40 millions. Ouais. 40 millions de Kurdes dans cette région-là.
Entre donc les pays sont
la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Il y a eu ce partage-là suite à la Première Guerre mondiale. Dans un premier temps, on nous avait promis en fait un État.
Et oui.
Et une fois que la Turquie a instauré la République dans les années... c'était 20...
1923.
20, voilà. Après les années 20, eh bien, ils sont revenus finalement là-dessus. Et depuis, nous sommes sans État. Et la première chose à laquelle s'attaquent souvent ces États-là, c'est ce qui fait notre singularité, donc notre langue, notre culture... Et c'est pour ça qu'on essaie de préserver au maximum justement cette langue-là pour laquelle on s'est battu, pas seulement depuis un siècle, mais depuis très très longtemps. On a des origines qui remontent jusqu'à la Mésopotamie. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui d'essayer de garder intacte et cette langue et cette culture.
Tout à fait. Et c'est vrai que vous êtes notamment ici à Toulouse regroupés, donc il y a l'association franco-kurde, il y a ce local hein, qui permet de se retrouver, il y a le CDK dont vous faites partie, donc tu en es membre à Aïché, et toi donc tu es le co-président donc, du CDK à Kina. Donc...
Oui, ça fait 2 ans, pratiquement ça va faire 2 ans, je suis le co-président.
Tu peux nous présenter le CDK ouais.
Mais le CDK c'est un regroupement de tous les Kurdes de Toulouse, de tous les coins de Kurdistan. Comme on l'a noté tout à l'heure, pour nous, on parle de la Turquie, l'Iran, l'Irak, mais les Kurdes disent Bakur, c'est le nord du Kurdistan, c'est la partie de la Turquie, Rojhelat, c'est l'est du Kurdistan, la partie iranienne, et Bashur, c'est le Kurdistan sud, la partie irakienne, et Rojava, qu'on en parle beaucoup,
oui.
C'est l'ouest du Kurdistan, la partie syrienne, Kurdistan syrienne. Donc les Kurdes aujourd'hui, ils parlent plutôt de Bakur, Bashur, Rojhelat et Rojava. Ne parle pas de Turquie, Iran et Irak, parce que c'est le Kurdistan qui est morcelé et divisé en 4, au sud, nord et l'est-ouest. Donc c'est pour ça que notre but aussi, c'est de rassembler, de pouvoir unir tous les Kurdes de monde entier, mais de 4 coins de Kurdistan. Et c'est ça que la division, cette séparation touche beaucoup. La population kurde, ça divise aussi culturellement, ça divise linguistiquement et ça permet aussi aux États occupants d'assimiler le peuple kurde, de faire disparaître la culture, la langue du peuple kurde. Notre but aussi, c'est de pouvoir se défendre contre cette agression culturelle.
Oui, ce que tu dis comme assimiler, en fait, ça, on peut presque le traduire par être donc
disparaître
ouais. Quoi. En fait, c'est ça. Hein, c'est une forme de destruction culturelle. Ces termes aussi qui ont été employés régulièrement, qui sont employés régulièrement, notamment de recherche d'une forme de génocide. Hein, alors quand il n'est pas culturel, il est aussi directement un génocide aussi assez physique qui rappelle le génocide des Arméniens qui a bel et bien eu lieu en 1916.
En 1915, début de la guerre, on va dire la guerre 14-18, la Turquie s'en est servie un peu aussi de la... On dit la Turquie, c'était l'Empire ottoman, les jeunes Turcs de l'époque qui sont servis de circonstances de la guerre pour déplacer la population arménienne vers la Syrie, plutôt au sud des Rizors, tout ça. Mais sur la route, il y a eu beaucoup de morts. Déjà, les hommes ont été enlevés, massacrés, et les femmes, enfants... Il y en a beaucoup qui ont perdu leur vie durant ce voyage interminable vers la Syrie. Et on en parle, beaucoup d'historiens sont d'accord, plus d'un million et demi d'Arméniens à l'époque ont perdu leur vie. C'est un génocide, c'est le premier génocide du XXe siècle. Et aujourd'hui, le génocide se répète à nouveau sur les Kurdes, sur le peuple kurde, et devant les yeux du monde entier. La communauté internationale reste très... silencieuse là-dessus.
Tout à fait. Et puis, il y a aussi cette espèce de mauvaise foi permanente, enfin, je veux dire, de mensonge même carrément. On rappelle que là, cet été, hein, l'été dernier, hein, je crois que c'était fin août, hein, il y a eu notamment les maires du Rojava, d'ailleurs, hein, c'était ça. Non.
De Bakour, Turquie.
Bakour. Voilà, de Bakour, et qui sont donc
Bakour. Destitués de leur fonction.
Et qui ont été, donc, ce sont des maires qui sont kurdes, voilà, en tant que peuple, et qui ont été démocratiquement élus, et néanmoins, par le pouvoir déjà de Erdogan, donc, ils ont été destitués, il y a déjà eu des violences, enfin, des gens mis en prison, et déjà, à ce moment-là, vous le disiez très clairement, quoi, Erdogan, ce qu'il veut, c'est effectivement éliminer les Kurdes de son territoire, comme si on pouvait les balayer comme des insectes, enfin, je dirais pas du tout comme des humains, quoi. C'est ça qui est choquant. Ben,
en fait, les agressions d'Erdogan vers les démocrates, vers les droits de l'homme, vers les défenseurs des droits de l'homme, datent plus anciennes, c'est-à-dire dès la bataille de la Kobané en 2014, lorsque les Kurdes ont résisté contre cette agression des djihadistes vers cette ville, et c'était devenu une bataille internationale. Rojava est devenu symbole de résistance contre Daesh. C'était la première victoire aussi des Kurdes contre Daesh. La Daesh a connu sa première défaite à Kobané. Et de là, même Erdogan n'était pas content. C'est parce que c'est lui qui a nourri Daesh, c'est lui qui a soutenu cachettement, même ouvertement. Et après Kobané, il a commencé à perdre le pouvoir en Turquie. Surtout les élections de 2015, il a perdu en juin 2015 le pouvoir, la majorité absolue. Et là, il a commencé à attaquer les Kurdes pour pouvoir rester. Sa politique violente de violence a commencé de 2015 et ça continue depuis. Donc en 2016, déjà, il y a eu une politique de destitution des maires démocratiquement élus. À l'époque, il y avait 102 mairies détenues par le parti HDP. Sur 102, il me semble que 96 ont été destitués de leur fonction. Et au 31 mars dernier, ces maires qui ont été destitués ont pu regagner une grande majorité de ces villes.
Et les trois, toujours voilà, par élection, voilà. D'accord.
Trois villes, principales villes, Diyarbakir, Mardin et Van, les villes de Kurdistan, le nord de Kurdistan, le Bakour, l'été dernier, ont été à nouveau destitués de leurs fonctions. Et hier, l'un d'entre eux a été même emprisonné, Adnan Selçuk Mizrakli, le maire élu démocratiquement de Diyarbakir, Ahmed en kurde, c'est la capitale du Kurdistan.
D'accord. Donc ça, c'était, et on va dire, ça, c'était pas le pire, puisque déjà, vous dénonciez qu'effectivement, qu'il y avait vraiment des ambitions de territoriales d'Erdogan, et ce délire, effectivement, qui est là, ce grand empire ottoman dans son délire. Et donc, là, je me suis un petit peu perdue dans ce que je voulais te dire. Donc ça, c'était, donc, on le voit, donc déjà, ça fait un moment que ça dure. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que Kobané, quand il y a eu la bataille de Kobané, à ce moment-là, les Yépégué, je ne dis pas très bien peut-être, donc ce sont les armées et mixtes et les armées féminines des Kurdes avaient gagné, et c'était des armées. Aujourd'hui, j'ai été singulièrement choquée en écoutant une radio de Radio France capable de dire maintenant, c'est parce que là on va revenir tout de suite à l'accord qui s'est conclu hier, hein, donc sur les frontières turco-syriennes et au-delà en fait, et là maintenant donc les YPG et YPG ils sont présentés comme des milices kurdes. Donc vous voyez, c'est une manière aussi de dire une milice, c'est beaucoup moindre quoi qu'une armée. En fait.
Moi, j'aimerais juste préciser une chose pour vos auditeurs.
Oui.
Les forces armées kurdes ont été les premiers sur place à combattre les barbares de Daesh. Pendant que l'Europe et les États-Unis s'affairaient à calculer le coût d'une opération militaire et je ne sais trop quoi, les seules forces qu'il y avait sur place étaient les forces kurdes. Et eux, par contre, n'ont pas calculé ça. Ils sont directement lancés et ont fait la guerre contre les islamistes de Daesh. Donc aujourd'hui, ils sont considérés comme des milices. Alors je ne sais pas, une fois que tout ça est passé, qu'on est un petit peu débarrassé de ces terroristes, on se permet à chaque fois de nous recaler, de nous remettre d'un coup de main comme ça sur le côté. C'est vraiment inadmissible, je trouve, au niveau international. Et sincèrement, l'Union européenne, les États-Unis en premier lieu, hein, qui nous ont abandonné les premiers, qui ont donné le feu vert à la Turquie, à l'invasion de la Turquie. Et l'Union européenne devrait réellement avoir honte aujourd'hui de ce qui se passe au Rojava pour ces milliers de personnes tuées comme ça, injustement, sans aucun justificatif, et pour ces centaines de milliers aujourd'hui obligés de quitter leur terre, déracinés de nouveau et obligés d'être déplacés et d'aller, comme a dit mon collègue, dans des camps aujourd'hui. Donc traiter ça aujourd'hui de milice, je sais pas vraiment, on n'a pas de mots. C'est tellement dramatique que voilà, avoir de tels propos aujourd'hui, je trouve, est complètement injustifié et injuste.
Non, c'est de la manipulation, effectivement, des esprits, tout simplement. Mmh. Et là, tout de suite, j'aimerais qu'on parle notamment des deux actualités. Merci beaucoup, Aïcha, de tout bien repositionner ça. Hein. Donc, il y a une actualité que voilà, je viens d'apprendre, quand même, ça, c'est choquant, donc, de ce qui s'est produit à Genève, donc, devant les Nations Unies, d'une part. Également, donc, l'accord, en fait, voilà, les grands de ce monde, on dirait qu'ils jouent aux billes, quoi, en fait. Hein, et donc, ils se mettent d'accord entre la Russie qui laisse jouer à Erdogan, Erdogan qui dit aux USA, moi je veux te le jouer. En fait, c'est un peu ça. Hein, c'est ici même Sechan, donc votre également donc compatriote kurde, qui avait dit, mais Erdogan enfant gâté, quoi, vraiment. Et mais bon, dangereux. Et donc parler de ces deux données-là, donc l'accord qui vient d'être signé, et puis également si vous pouvez donc faire un point, parce que donc je l'ai appris tout à l'heure, donc ce qui s'est passé devant l'ONU. Akin, si tu veux revenir dessus, ou Aïcha, celui qui veut.
Oui, ben, moi aussi j'ai appris par la presse ce matin qu'un jeune kurde de Rojava qui est venu d'Allemagne jusqu'à Genève pour protester contre le silence total des Nations Unies, contre les exactions, les massacres qui sont en train de se faire au Rojava. Contre ce silence, il s'est immolé par le feu devant le Conseil des Nations Unies à Genève. Donc il est grièvement blessé, hospitalisé. Donc plus qu'on peut dire sur son état de santé. Et aujourd'hui, beaucoup de Kurdes sont vraiment en colère contre ce qui se passe, en colère contre l'attitude des États qui ne réagit pas, à part quelques déclarations très timides, et aussi contre les États-Unis, la Russie, qui font des alliances, des accords avec la Turquie pour pouvoir envahir cette région. Comme tout à l'heure on a dit, l'accord de la Russie permet à la Turquie de rester sur place. Les peuples de Rojava n'accepteront pas ça, parce que les Serikani et Talabiyat, donc Talabiyat en kurde c'est Grisipi, Serikani c'est Razulayn en arabe, ces deux villes qui aujourd'hui sont sous l'occupation turque et ces mercenaires djihadistes et qui font des kidnappings, des massacres quotidiens sur place. Et la population de ces régions, de ces villes, ont été obligés de quitter la région, plus de 300 000 déplacés, on parle aujourd'hui. Donc, ce que demandent les Kurdes, c'est qu'on puisse, que la Turquie, avec ses mercenaires, se retire de cette région et que les populations puissent rentrer à nouveau chez eux.
Alors en même temps, là, ce geste de cette jeune personne qui a été délibérément s'immoler devant les Nations Unies, ça rappelle quand même les gestes des moines tibétains qui ont vu le Tibet se faire annexer par la Chine, pareil, avec le silence complice de toute la communauté internationale. Et le nombre de moines tibétains qui se sont immolés est assez... Ce sont des dizaines et des dizaines qui sont morts, hein, et on n'en parle vraiment pas tous les jours. Hein, mais on se rappelle quand même, l'Europe et le monde se rappelle de Jan Palach qui s'est immolé par le feu quand la Russie donc a envahi Prague, en fait, si je ne m'abuse. Et donc ça avait créé à ce moment-là un choc. On rappelle aussi Mohamed Bouazizi, en fait, qui s'est immolé par le feu en Tunisie et qui a généré le premier printemps arabe. Alors ce geste de ce jeune homme de ce matin, je pense que il y a eu lieu de l'interpréter comme un geste désespéré, absolu. SODU, quoi. Et pour, comme justement, vous n'entendez rien, qu'est-ce qu'il vous faut? Je mets le feu, quoi.
En fait, les Kurdes connaissent bien ce genre d'action, des militants, des sympathisants de la cause kurde. En 99, lorsque le leader kurde Abdullah Öcalan a été arrêté au Kenya par un complot international, à l'époque, durant ces... de octobre à février 99, il y a eu plus de 70 personnes qui ont fait des actions pareilles. Donc ces actions ne sont pas... Le peuple kurde connaît très bien comment à ce point sont déterminés à faire des... sacrifier leur vie pour défendre le peuple kurde, la cause du peuple kurde qui est tout à fait légitime de pouvoir de se défendre, avoir ses droits le plus fondamentaux.
C'est clair. Alors, juste, je vois que le temps passe et que vous allez devoir aller donc au rassemblement. On rappelle le rassemblement là aujourd'hui, mercredi 23, va être donc et tout à l'heure à 19h, Maître Esquirol, pour une marche donc de sensibilisation, quoi, voilà, et dire effectivement de votre solidarité avec le peuple kurde. Juste, donc on va faire un peu vite et donc l'accord qui vient d'être conclu en fait entre la Turquie, la Russie, etc. Le dernier accord que des médias dominants, là, les merdias que j'appelle, quoi. Ils ont l'air de présenter ça comme du style « tout va très bien, ça va, ça s'arrange ». Et qu'est-ce que vous dites, Aïché et Akin?
Moi, je trouve qu'au contraire, tout va très mal. Tout va très mal dans un premier temps pour nous, le peuple kurde. Comme je l'ai dit, on a été écarté, mis de côté, massacré pour une très grande partie et déplacé pour l'autre. Ça va très mal aussi pour l'Union européenne. Je ne comprends vraiment pas cette absence de réaction. Aujourd'hui, la région est laissée à des dictateurs, très clairement, entre Erdogan, Poutine et Bachar el-Assad, qui n'a pas été très juste et très sympathique avec son propre peuple. Donc, pour moi, les grands perdants, en fait, sont l'Union européenne et les États-Unis qui n'ont plus du tout aucun mot à dire pour ce qui est de la géopolitique de cette région. Et que l'Union européenne se fasse comme ça, dirigée par un tyran, par un dictateur comme Erdogan, sur la question des migrants, enfin, je trouve ça extrêmement indécent. Il s'agit tout de même de vie humaine qu'aujourd'hui Erdogan n'hésite pas à monnayer comme si c'était du bétail. Dès qu'il n'est pas content de la politique de l'Union, il n'hésite pas à menacer avec ces migrants-là. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est ces migrants-là qu'il veut installer dans le corridor. Je trouve ça vraiment injuste parce que les populations qui y vivent, le peuple kurde qui y vit aujourd'hui est déplacé pour qu'on puisse cette fois-ci... les remplacer par les migrants qui sont actuellement en Turquie. Mais est-ce que ces migrants-là également veulent retourner en Syrie? Est-ce qu'ils veulent retourner dans cette région spécifique? On ne leur demande rien non plus à
non,
aussi.
Ça, okay.
On les monnaie comme ça. Et je trouve ça extrêmement, extrêmement honteux aujourd'hui pour l'Union européenne d'être comme ça, menée par le bout du nez par un dictateur comme Erdogan.
Oui, pour quelques mots sur l'accord. Nous, l'accord est loin d'être pour les intérêts de la population de la région, comme vient de dire Aïché. Ce que demande le peuple de Rojava, c'est que vraiment qu'il y a une zone frontalière par les Nations Unies, contrôlée par les Nations Unies. On ne fait pas confiance ni à Poutine, ni à Bachar el-Assad, ni à la Turquie. Parce que demain, ça peut très vite varier au profit d'Erdogan pour qu'il puisse à nouveau s'attaquer. Donc il y a un accord, mais on ne fait pas confiance. On aimerait plutôt que les Nations Unies puissent contrôler et exclure la Turquie de cette région, qui a une protection aérienne aussi contre l'aviation turque. Et aussi, on parle aussi des négociations sur la nouvelle constitution de la Syrie, aux Nations Unies, il faut que les Kurdes soient inclus aussi dans ces négociations pour qu'on puisse avoir un statut en Syrie pour les Kurdes.
Entendu. Les amis, donc, on rappelle que vous serez donc tout à l'heure, aujourd'hui mercredi à 19h à Esquirol, pour une marche. On peut vous retrouver demain jeudi entre midi et 14h pour une distribution de tracts donc à la fac du Mirail à Toulouse. Et également qu'il y aura vendredi soir. Donc c'est à quelle heure à
Métro Jean Jaurès? 19h, pareil, à Métro Jean Jaurès cette fois-ci.
Voilà. Mais écoutez, donc on reste en lien et on rappelle que sinon vous avez un Facebook, donc c'est la société.
Communauté Cure de Toulouse, voilà. La page Facebook, et notre adresse mail cdk.toulouse@gmail.com.
Merci beaucoup Akin, merci beaucoup donc Aïché. Et on se quitte, peut-être tu nous dis effectivement le son que tu nous as choisi, pourquoi tu as choisi ce son-là?
Ben, c'est la musique est triste aussi, d'un combattant kurde qui est dans les rues, dans les villes de Rojava, qui tourne dans les quartiers, où beaucoup de combattants comme lui ont sacrifié leur vie pour la protection de cette région. C'est une chanson sur les combattants de Rojava.
D'accord. Merci infiniment à tous les deux. Donc,
merci à
plein
vous.
De force et voilà, on ne lâche rien.
Merci à vous. Beaucoup. Merci de nous avoir permis d'être ici.
به قربانو تو نهلی طولامه به دست خوین به جانو شروانو 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 که زیادای که به قربانو تو نهلی طولامه به دست خوین به جانو شروانو 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 چلنگو از گوریده دل که یاری باراده تفنگل سر میلانو شروانو 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 چلنگو از گوریده دل که یاری باراده تفنگل سر میلانو شروانو 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 شربانو گرکتین برخانو لولی بده سنگانو بلسو بس که حیرانو شربانو 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 گرکتین برخانو لولی بده سنگانو بلسو بس که حیرانو شربانو 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 شروانو دریا دوست دزانو کس که سوران از منو یان چکادش من منو شروانو 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 دریا دوست دزانو کس که سوران از منو یان چکادش من منو شروانو 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 شروانو